France Musique.
Bonjour à tous. C'est le temps des cerises. Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Quand les artistes se mettent au vert, de plus en plus de musiciens s'engagent, prennent la parole et jouent pour alerter sur le sort de la planète. Parmi eux, il y a le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca. Il sera notre invité à 9h moins le quart à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Les musiciens vont donnent de la voix. Ils publient une lettre ouverte. C'est dans la lettre du musicien et c'est au programme de Classique Info avec Sophie Anastasio. À 8h40, l'Europe va-t-elle parler d'une seule voix pour rouvrir ses frontières alors que la situation sanitaire s'améliore? C'est tout l'enjeu ce matin d'une réunion des ministres de l'Intérieur des 27 pays membres de l'Union. On en parle dans le journal d'Olivier Denré dans une demi-heure. Et puis quand les élèves du Conservatoire supérieur de Paris donnent des auditions virtuelles, ça se passe en ce moment dans la classe de violoncelle de Marc Copé. Et c'est l'histoire que nous racontera Suzanne Gervais dans 25 minutes.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, si le cœur vous en dit, ça commence par Lully.
Thank you.
Jean-Baptiste Lully, l'ouverture de sa tragédie Phaéton avec le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre, une musique qu'on trouve sur un disque intitulé Musique des fêtes royales, disque édité par Château de Versailles Spectacle, et les spectacles prévus certes ces prochaines semaines au château sont annulés, mais le château de Versailles et le parc rouvrent demain, et les grandes eaux musicales d'ailleurs joueront dès ce premier jour de réouverture. Attention quand même à ne pas y aller pour rien, pour permettre de réguler les flux du château. La billetterie est à réservation horaire obligatoire. Il a beau être né à Toulouse, c'est à l'Argentine et en particulier à sa capitale que l'on associe Carlos Gardel. Il faut dire qu'il est arrivé à Buenos Aires à l'âge de 2 ans avec sa maman et donc tout naturellement, le roi du tango figure sur le disque que la célèbre basse argentine Nahuel Di Piero consacre à sa ville. Chante de ses racines, dit-il, qui dans la bouche de ses grands-parents et de ses parents a su forger son identité de chanteur et son amour de la musique. Un album consacré donc au répertoire des premières décennies du tango chanté. Comment s'en sort-il Nahuel Di Piero, l'une des voix les plus recherchées aujourd'hui parmi les basses? Les chanteurs lyriques parfois se sont égarés dans la chanson. Eh bien, pas là. C'est même très réjouissant.
Betty, Peggy, Mary, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que mienten amor, dan envidia a las estrellas, solo sé vivir sin ellas. Betty, Peggy, Mary, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un cascabel. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Betty. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Para soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un cascabel. Ríen su alegría como un cascabel.
Et ben voilà, il s'en sort très bien, Nahuel Di Piero. Carlos Gardel, Rubias de New York, avec les guitaristes Rudy Flores, Thomas Bordalero et Diego Trossman au guitaron. Le disque s'intitule Un éclat en Paris. Il sort cette saison, enfin il est sorti il y a quelques mois, donc cette saison, chez Audax Records. Et la basse argentine francophone fait partie des invités de Clément Rochefort. C'est demain sur France Musique à 16h. Oui, on peut sortir, mais non, il va pas faire très beau ce week-end, en tout cas sur un certain nombre de régions. Alors que faire? Voir un spectacle en ligne, par exemple. Il y en a tant, comment choisir? Heureusement, il y a Guillaume Thion de Libération. Guillaume, ce matin, vous nous conseillez un spectacle de l'opéra comique, musique d'Adolphe Adam, ou des questions de Postillon, du Postillon de Longjumeau.
Bonjour Jean-Baptiste, oui, du postillon évidemment, du postillon depuis le déconfinement, tout le milieu s'interroge sur les fameux postillons des chanteurs. Le mètre et demi de distanciation sociale est-il adapté ou faut-il considérer le postillon comme un missile longue portée dont il convient de se prémunir en filant aux antipodes de la scène? Les études se croisent, la plupart optent pour la prudence d'une distance de 3 à 5 mètres. Ce n'est pas tant le souffle de la colonne d'air que la production de mucus et ses diables de consonnes occlusives et autres dentales sourdes qui effraient les scientifiques. Et à ce titre, il nous faut surveiller l'opéra de Vienne, qui reprend des opéras de répertoire avec des jauges à minima à partir de lundi. Mais Jean-Baptiste, évidemment, ce n'est pas la crainte de la Covid qu'Adolphe Adam a mise en musique en 1836. Ce postillon qui nous occupe, c'est le conducteur de la malle-poste Chapeloux, un brave gars marié à une aubergiste à Longjumeau. Mais Chapeloux est surtout chanteur, et quand sa voix est remarquée, il abandonne sa femme pour faire carrière à Paris. 10 ans plus tard, de retour à Longjumeau, il tombe amoureux du sosie de sa femme, qui se trouve être sa femme. Tout cela est bel et bon et finit donc en chanson. Et Chapeloux, le bigame de la même femme, peut très lointainement se comparer à un Tannhäuser devenu facteur dans les sonnes romantiques. Alors cette œuvre est intéressante, hein, le postillon de Longjumeau, car elle porte un amour réel à la vocalité. Le fameux postillon multiplie les prouesses vocales, il va jusqu'au contre-ré. Le Ré 4, 588 Hz, n'insistez pas, je ne peux pas vous le faire, mais écoutez-le tel que chanté par Michael Spyrus. Voilà qu'il est beau, le postillon de Longjumeau, que de facilité apparente pour s'ouvrir ainsi les portes de ce ré impossible. De la gaudriole à l'exploit technique, c'est cette fausse légèreté qui a fait le succès de l'œuvre, un tube du 19e qui a séduit toute l'Europe avant de tomber dans les oubliettes du 20e. Il a par exemple été créé à l'Opéra Comique, mais n'avait pas été donné depuis 1894. Cette résurrection de 2019 a été confiée à Michel Faux, lequel a certainement drogué son scénographe tant le décor effervescent foisonne de couleurs pétillantes d'acidité. Mais la vérité est ailleurs, dans l'interprétation. Les deux principaux rôles sont tenus par l'Américain Michael Spyrus, donc qu'on ne présente plus et qui chante Chapeloux, et la Canadienne Florrie Valiquette, laquelle chante sa femme et son sosie. Leur perfection, au détriment d'une partition plutôt fade, nous fait traverser cette œuvre confortablement, car comme disait Hugo, c'est une horrible chose qu'une nuit en malle-poste. On s'endort, c'est précisément à ce moment-là que la route choisit pour devenir affreuse. Rien de tel ici, fort heureusement.
Le postillon de Longjumeau d'Adolphe Adam, mis en scène par Michel Faux. Le conseil de Guillaume Thion cette semaine, et c'est à voir sur le site de l'Opéra Comique, vous avez le temps, c'est jusqu'au 9 novembre. France Musique, 8h12, et les trompettes alors? Les trompettes envoient-elles des postillons à 4 mètres, comme le prétendait il y a 15 jours la production de l'émission Le Grand Échiquier sur France 2 pour expliquer l'absence de cuivre dans l'orchestre? Demain soir, en tout cas à 20h sur France Musique, le premier concert post-confinement en direct de l'auditorium de Radio France. Ce sera un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Kent Nagano. Et si le programme fait la part belle aux instruments à cordes, le concert va commencer par la fanfare pour 3 trompettes de Benjamin Britten. Guy Touvron, le grand trompettiste, sera notre invité prochainement en juin. Il m'a même fait parvenir une vidéo où il joue pavillon juste contre une bougie qui ne s'éteint pas. On ne voit même pas la flamme vaciller. Preuve, selon lui, que l'instrument ne projette ni air ni postillon à plusieurs mètres. Voilà, à suivre avec de nouvelles études, sans tambour, mais avec 2 trompettes. Voici Guy Touvron et Serge Boisson. Ils jouent Vivaldi. Vivaldi, le premier mouvement de ce concerto en do majeur, non pas pour une, mais deux trompettes, cordes et clavecin. Guy Touvron avec Serge Boisson, Il Solisti Veneti, dirigé par Claudio Scimone. Tous les matins, une voix de France Musique nous susurre des mots tendres et nous fait écouter une musique de son choix. Aujourd'hui, c'est Laurent Vallière, notre monsieur comédie musicale.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Jean-Baptiste et bonjour à tous. Il y a eu quelques sorties d'albums durant ces quelques mois où le temps s'est arrêté. Et l'un de ceux qui m'a accompagné, c'est un album choral, avec de nombreuses voix qui s'enchevêtrent, qui font chaud au cœur, comme dans les nombreuses vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux, vous savez, avec des chanteurs, avec des écouteurs, chacun chez soi, en train de chanter en harmonie. Bon là, c'est un album avec des chansons et des artistes enregistrés de façon parfaite en studio. Des chansons d'un compositeur peu connu en France, Maury Yeston. À son actif, un grand succès en 1997, surprenant, Titanic en comédie musicale à Broadway, c'est exactement la même année que le film, une œuvre profonde qui déjà montrait en musique la lutte des classes sur un paquebot qui vogue et des airs lyriques ou des airs qui swingaient. Parce que Maury Yeston manie parfaitement les deux. Dans le style lyrique, il a ainsi composé un cycle de chansons inspiré du cycle de Schubert, Le Voyage d'hiver. Maury Yeston a aussi adapté Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux en comédie musicale, même si ce n'est pas sa version qui est devenue la plus célèbre, mais celle du britannique Andrew Lloyd Webber. Et pourtant, la partition de son Fantôme de l'Opéra est magnifique, avec des chansons lyriques comme Home que je vous propose d'entendre, et quand je l'écoutais durant le confinement, ça me donnait une bonne raison de rester à la maison, Home, et de m'y sentir bien. La voici donc, cette chanson dans une version nouvelle, extraite d'un album qui enregistre un spectacle entièrement composé de chansons de ce compositeur, Maury Yeston, pour le théâtre, dont le titre est à propos, Anything Can Happen in the Theatre, tout peut arriver au théâtre, et c'est pour cela qu'on a hâte d'y retourner. Voici Home, chanté à plusieurs voix, en attendant de vous retrouver avec plaisir dimanche, en direct sur France Musique, pour le grand retour des cabarets 42e rue. Vous savez, ces concerts live, dans une formule adaptée, confinée, nous serons en live avec des artistes à Paris, à Londres et aux États-Unis pour 3 sessions de musique. Hâte de vous retrouver. Bonne journée à tous.
All my life I've been waiting in my mind in a rocking chair for my fancy to take the air. I would know the time.
Tick and tock went my childhood. Somehow knew I would know the place. Skin would tingle. voice as they do.
It's here I'm home, where music fills the air, and I'm home, where a thousand lovers cry, swoon and sigh, and I'm home, where every violin plays a treat as sweet as a
Ça s'appelle Home, extrait du Fantôme de l'Opéra, mais de Maury Yeston. Et c'est donc dans cette revue musicale qui s'appelle Anything Can Happen in the Theater, le choix ce matin de Laurent Vallière, à ne pas manquer donc son cabaret 42e rue, avec des artistes en live de Paris, de Londres et de Miami. C'est dimanche à 13h. Thank you. Bien sûr, c'est Carmen, Georges Bizet, la garde montante, le cœur des gamins, avec la maîtrise de Radio France, l'Orchestre National de France, dirigé par Seiji Ozawa. D'ailleurs, c'est Janine Rice qui était assistante de direction dans ce mythique enregistrement réalisé en 1988, ici à la Maison de la Radio, au studio 104. Une Maison de la Radio qui reprend vie ces jours-ci avec des musiciens qui reviennent jouer cette semaine. Premier concert en direct demain soir, je vous le disais tout à l'heure, à l'auditorium. Quant aux maîtrisiens de Radio France, en attendant de revenir sur scène, ils chantent des compositions originales, quatre œuvres commandées à quatre compositrices et compositeurs. Le projet s'appelle Les Chants de Loin et la première vidéo, elle sera diffusée ce soir à 18h. France Musique, il est pile 8h25, voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Du violoncelle pour finir la semaine avec l'initiative de l'un de nos plus grands violoncellistes, également professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris, c'est Marc Copé.
Marc Copé, grand violoncelliste et pédagogue passionné, professeur qui soutient depuis plus de 3 mois ses étudiants pendant cette période difficile, hein, une époque de doute et d'angoisse pour tous les musiciens professionnels, mais aussi pour les élèves des cursus supérieurs qui sont moins sous les feux de projecteurs, mais qui ont d'autant plus besoin de soutien et d'attention, ne les oublions pas. Nous sommes en juin, mois des examens, et cette semaine aurait dû voir les violoncellistes du CNSMD de Paris présenter leur récital de licence et de master, des rendez-vous incontournables, hein, très attendus de ces grands élèves. Or, crise sanitaire oblige, il n'en sera rien. L'année se termine un petit peu en queue de poisson, et je vous laisse imaginer le découragement qui peut s'abattre sur les étudiants privés de cet horizon déterminant. Leur professeur a donc décidé de réunir ses 14 élèves pour une intégrale des 6 suites de Bach qui a été mise en ligne chaque jour de la semaine sur le groupe Facebook de la classe. Bach, mais pas seulement, les sonates de Kodály et Crumb étaient aussi à l'honneur. Nous sommes vendredi, la semaine touche à sa fin et les dernières vidéos seront postées aujourd'hui, mais vous pouvez tout retrouver sur le groupe Classe de violoncelle de Marc Copé. Bon, j'imagine que vous les avez reconnus, hein. Ce sont les premières notes de la première suite en sol majeur jouée par l'une des élèves, Adèle Thévenot. Cette vidéo a été postée lundi, c'était la première de la semaine. Quelques notes et quelles notes, hein, qui vous donneront sans doute envie d'aller tendre l'oreille sur le groupe de la classe. Alors il est évident que ces auditions virtuelles ne prétendent pas remplacer la musique vivante qui reviendra, on l'espère, très vite et plus forte que jamais, dans les conservatoires notamment. Mais elles donnent un bel aperçu du travail de ces futurs professionnels et de leur courage, disons-le, pendant ces mois de confinement. Elles sont aussi la preuve, s'il en fallait, que l'école française de violoncelle se porte décidément très bien.
Suzanne Gervais, Musique Connectée, c'est aussi sur francemusique.fr. À lundi, Suzanne.
À lundi.
On écoutait les premières notes de la suite en sol majeur. Bien, voici les dernières notes. La gigue, interprétée par le prof Marc Copé.
Thank you.
Jean-Sébastien Baclagic de la première suite pour violoncelle seul, Marc Copé au violoncelle.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Un autre violoncelliste, Christian-Pierre Lamarca, il sera notre invité dans un quart d'heure à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, un musicien qui s'engage et qui joue pour alerter sur le sort de la planète. Voyage à Londres au XVIIe siècle sur son nouveau disque François Joubert Caillet et son ensemble L'Aquéron. Magnifie le répertoire écrit pour le consort de viol, extrait dans une dizaine de minutes. Et puis juste avant, quand les instrumentistes avant donnent de la voix, ils publient une lettre ouverte, c'est dans la lettre des musiciens. Et c'était au programme de Sophie Anastasio, Classique Info, à 8h40, c'est-à-dire dans 10 minutes, car pour l'heure, il est 8h30 sur France Musique. L'heure du journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Son visage apparaîtra aujourd'hui sur la façade de la mairie de Paris, un portrait bien visible pour soutenir une femme emprisonnée il y a tout juste un an par les Iraniens. Il y a 3 semaines maintenant, Fariba Adelra a été condamnée pour propagande contre le système, mais aussi collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. 5 longues années de détention pour cet anthropologue de 61 ans qui clame inlassablement son innocence. Son compagnon, le chercheur Roland Marchal, arrêté en même temps, a lui été libéré à la fin du mois. Avec d'autres, il réclame depuis que Fariba Adelra puisse quitter au plus vite la prison d'Evine à Téhéran. Cette affaire particulièrement complexe met en tout cas en lumière les risques que courent les chercheurs étrangers. Ils sont en effet aujourd'hui, Christian Chesneau, des cibles faciles pour les régimes autoritaires du Moyen-Orient qui veulent régler des comptes diplomatiques avec les grandes puissances occidentales.
Pris dans le tourbillon des crises diplomatiques, les chercheurs étrangers paient au prix fort leur statut et leur liberté, constate Jean-François Bayard, universitaire membre du comité de soutien à Fariba Adelra.
C'est un métier à risque parce que dans l'imaginaire historique de la région, le chercheur occidental est associé à l'épisode traumatique de la colonisation, immédiatement assimilé à un espion. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, c'est-à-dire qu'il espionne.
Il y a aussi des lignes rouges à ne pas dépasser pour les chercheurs étrangers, reconnaît Jean-François Pérouse, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul.
On peut dire quand même que qu'en Turquie, la liberté du chercheur étranger demeure à condition, hein, bien sûr qu'il y a une condition, qu'il ne touche pas un certain nombre de sujets tabous hein, qui tournent autour de la personne du président. Il y a des difficultés pour obtenir des autorisations pour travailler, par exemple, sur les réfugiés syriens, mais parce que c'est un sujet que le président s'est approprié hein, et il veut avoir le monopole de la production d'informations sur le dossier syrien.
Et quand les relations diplomatiques tournent à l'orage, les permis de fouilles archéologiques sont suspendus, comme c'est le cas actuellement avec la Turquie, où il n'y a plus d'équipe de chercheurs français sur le terrain.
Au Venezuela, le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, aurait trouvé refuge depuis quelques jours maintenant dans les locaux de l'ambassade de France à Caracas, la capitale. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères du président Nicolas Maduro. 8 minutes 46 secondes de silence pour rendre hommage hier soir à George Floyd. La scène s'est déroulée sur le campus de l'université chrétienne de Minneapolis. 8 minutes et 46 secondes, c'est le temps pendant lequel le policier Derek Chauvin est resté agenouillé sur le cou de cet homme noir de 46 ans, dernier symbole en date des violences policières aux États-Unis. Dans tout le pays, des dizaines de milliers de personnes se sont encore rassemblées ces dernières heures pour réclamer la fin des discriminations raciales. On notera qu'en Autriche, la mort de George Floyd a également provoqué une grande manifestation hier dans les rues de la capitale, plus de 50 000 personnes dans les rues de Vienne. Donc, et puis sachez qu'en France, au moins 2000 personnes ont défilé à Lille. Un nouveau rassemblement contre le racisme et les violences policières avec en exergue les noms de George Floyd et Adama Traoré. Au début de la crise sanitaire, les pays européens ont bouclé, on s'en souvient, leurs frontières intérieures en ordre dispersé, chaque État membre se moquant à ce moment-là des règles communes en la matière. Ce matin, les ministres de l'Intérieur ont rendez-vous en visioconférence pour enclencher la manœuvre inverse, si possible cette fois, en agissant de concert, ce qui est évidemment loin d'être acquis, Louise Baudet.
Imposer ou pas une quatorzaine, blacklister ou pas certains pays qui n'auraient pas maîtrisé la pandémie. Sur ces sujets, s'entendre à 27 va être difficile, reconnaît le ministère de l'Intérieur, qui espère qu'un accord sera trouvé d'ici le 1er juillet et va proposer cette date butoir aux 26 autres États membres. Trouver un accord global, c'est ce que souhaite la France, mais aussi l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Autriche, un pays qui pourtant a fait cavalier seul hier en rouvrant ses frontières intérieures, sauf avec l'Italie. Et c'est là tout le problème. En matière de frontières, chaque État décide et il a ses propres vrais intérêts à défendre, sanitaires mais aussi économiques. Le tourisme, secteur clé notamment en Italie, qui depuis avant-hier accueille les visiteurs à bras ouverts. L'Espagne devait attendre le 1er juillet, mais elle est tentée d'accélérer. Pendant qu'en Europe du Nord et de l'Est, épargnée par la pandémie, des États organisent des bulles de voyage, au détriment d'un principe fondateur de l'Union européenne, la libre circulation dans l'espace Schengen.
Plus d'un milliard d'euros pour inciter les entreprises françaises à embaucher des apprentis. Toutes les aides seront dopées, promet l'exécutif aux partenaires sociaux. Dès la semaine prochaine, des discussions vont par ailleurs s'ouvrir sur le chômage partiel. Il y aura également d'ici l'été des réunions avec les syndicats, le patronat et le gouvernement pour évoquer un possible report de la réforme de l'assurance chômage. C'est une défaite en race campagne pour l'étude publiée par la revue médicale de Lancet. 3 des 4 auteurs de cette enquête annoncent qu'ils se rétractent. Ils retirent leur signature parce qu'ils ont des doutes, disent-ils, sur les données utilisées pour affirmer que l'hydroxychloroquine est inefficace, voire dangereuse pour la santé des patients atteints du coronavirus. Un temps plus sec sur les bords de la Méditerranée et sur la Corse, avec des vents bien présents du Roussillon à la région PACA. Partout ailleurs, les nuages et la pluie sont bien présents comme ailleurs. Comme hier, il neigera sur les Alpes au-dessus de 2000 mètres. Les températures de 7 à 18 degrés ce matin et de 15 à 27 degrés cet après-midi, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. Bon week-end et à lundi.
Bon week-end à lundi.
Chopin, comme vous ne l'avez jamais vu, grâce à des photographies, à un masque mortuaire, le fameux masque mortuaire et un daguerréotype, ainsi que une mèche de cheveux. Un artiste, l'artiste 3D Adi Karimi, est, dit-il, parvenu à reproduire fidèlement le visage du compositeur. Le résultat est à voir un peu partout depuis 24 heures sur les réseaux sociaux, avec un petit air de Serge Gainsbourg, peut-être. En tout cas, c'est saisissant de réalisme. Question de savoir s'il est utile de voir précisément à quoi ressemblait Frédéric Chopin. En tout cas, sa musique est bien vivante sous les doigts du grand Henri Barda.
Thank you.
Le final presto Manon Tanto de la troisième sonate de Frédéric Chopin par le grand pianiste, parfois moins connu que d'autres, il a près de 80 ans, Henri Barda, élève de Lazare Lévy, de Jean Hubaud, entre autres. Très rare au disque, je crois qu'il a enregistré uniquement 6 disques, il se produit toujours, il a donné encore récemment des récitals Salgavo à Paris, et si cette interprétation qu'on vient d'entendre vous a comme moi séduit, eh bien rendez-vous demain à 14h pour un portrait de famille sur France Musique que Philippe Cassard consacre à Henri Barda. France Musique, 8h41. Et c'est l'heure de Classique Info. Bonjour Sophia, Anastasio.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec une enquête du quotidien Libération sur les attentes du secteur culturel un mois tout juste après le programme d'action présenté par Emmanuel Macron.
Et de nombreuses incertitudes demeurent. Exemple, en quoi consiste la saison apprenante et culturelle? Même interrogation concernant la grande opération de commande publique. Est-elle dans les tuyaux? Pas de nouvelles non plus du fonds d'urgence pour les festivals ou de l'exonération de cotisations sociales pour les artistes auteurs. Quant à l'année blanche pour les intermittents, mesure phare dans le flou, l'amendement vient d'être voté par le Sénat. Mais ses modalités d'application prévues dans un décret jamais présenté sont inconnues, alerte Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle.
Et dans la lettre du musicien, c'est un collectif d'instrumentistes à vent qui donne de la voix.
N'ayez pas peur des vents, c'est le message de leur tribune en réaction à un article paru dans Le Parisien le mois dernier. Portant sur les coulisses de l'émission Le Grand Échiquier, cet article affirmait qu'un postillon de trompette se projette jusqu'à 4,50 m. Une information erronée qui fait du tort à notre profession, affirment les signataires. Ils appellent les médias à ne pas céder à la surenchère. Nous n'accepterons plus d'être stigmatisés de la sorte.
Aux États-Unis, le monde du jazz se mobilise pour venir en aide au saxophoniste Wayne Shorter qui est souffrant.
Le grand musicien qui se déplace désormais en fauteuil roulant ne parvient pas à payer ses soins médicaux. L'organisation SF Jazz a donc décidé de diffuser 4 concerts dirigés par Herbie Hancock auxquels Wayne Shorter devait participer avec, pour chaque diffusion, un appel aux dons pour ses frais de santé.
La 75e édition du concours de Genève est reportée.
Consacrée au violoncelle et prévue du 23 octobre au 5 novembre prochain, elle est repoussée à l'automne 2021. Elle se tiendra en parallèle au concours de hautbois.
Joren Breiholz est nommé à l'Opéra de Lyon.
Il deviendra directeur artistique de l'institution à partir de février prochain. L'Allemand était auparavant en poste au Theater an der Wien en Autriche depuis 2016.
Et puis on termine avec un nouveau rendez-vous pendant le mois de juin.
Tous les vendredis à 18h, découvrez sur le site et la chaîne YouTube de France Musique, une création musicale interprétée par la maîtrise de Radio France. Le projet s'appelle Les Chants de Loin. Plusieurs compositeurs ont été sollicités pour écrire pendant le confinement. Leurs œuvres ont ensuite été chorégraphiées par Martin Grandperret. Elles sont donc chantées et dansées par les membres de la maîtrise. Rendez-vous ce soir pour la première avec la pièce Trois choses sur une musique de Pauline Marchand et un texte de Fernando Sabino.
C'était Sophia Anastasio à qui on souhaite un bon week-end et que l'on retrouve lundi 8h40.
À vous aussi à lundi.
Merci.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
La nouveauté du jour, c'est le dernier disque de l'ensemble L'Aquéron, dirigé par François Joubert Caillet, disque sorti chez Richard Carr. Le gambiste reconstitue un concert de 6 violes anglaises recréées grâce à des recherches musicologiques et en s'aidant également d'un traité de Thomas Mace, Music's Monument, écrit à Londres en 1676. L'auteur Mace donc cite de nombreux compositeurs dans son livre. C'est justement cette musique du 17e siècle pour consort de viol que l'ensemble a décidé de graver au disque, une musique d'une grande richesse allant de l'intime à l'immense, et notamment la musique de William White. On ne sait presque rien de lui, il reste que quelques pages, et notamment cette fantaisie. Thank you. fantaisie de William White, l'ensemble L'Aquéron avec François Joubert-Caillet. Il aurait dû jouer en ouverture du festival de Saint-Michel Antierrache ce dimanche. Eh bien, il jouera, mais en virtuel, c'est à voir sur le site du festival. 8h49.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
L'heure d'accueillir notre invité qui est aujourd'hui le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca. Bonjour Christian-Pierre.
Bonjour.
Un musicien engagé pour la planète en cette journée mondiale de l'environnement que Radio France et France Musique accompagnent chaque année. D'abord, d'un mot Christian-Pierre, vous êtes aussi avec votre frère l'altiste Adrien Lamarca, directeur artistique d'un festival, le Festival du Forêt dans la Loire. Il devait se dérouler du 3 au 14 juillet, vous l'avez annulé, la mort dans l'âme. Aujourd'hui, quand on voit le pic de la crise sanitaire s'éloigner, quand on voit certains festivals maintenus, est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous regrettez qu'on ait eu l'impression il y a quelques semaines qu'on n'avait pas le choix?
Oh non, je crois qu'il faut pas vivre avec des regrets. Je crois qu'il faut assumer un peu nos décisions. Nous, vous savez, on a pris le parti de laisser passer un tout petit peu cette crise qui touche tout le monde et de reporter tous nos concerts à l'année prochaine, mais surtout de donner au public quand même quelque chose, parce que c'est important pour nous de garder ce lien avec les gens, avec le public, déjà en tant qu'artiste et puis évidemment pour en tant que directeur artistique. Et donc, on a créé, nous, cette année, pour la première fois, on va faire des concerts de Noël. Donc on va se réunir peut-être à un moment qui sera peut-être un peu plus doux pour tout le monde, un peu plus tranquille, un peu moins concerné par ces questions qui nous touchent tous, comme je disais tout à l'heure.
Rendez-vous donc à Noël dans la Loire. Autre annulation, le concert pour la planète, il était prévu ce soir à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. France Musique diffuse à 20h le concert de la planète de l'an dernier, donné salle Cortot à Paris. Pourquoi un concert de la planète, Christian-Pierre Lamarca? Quelle est l'idée?
Eh ben, l'idée première, c'est de se dire, je me suis interrogé depuis de nombreuses années sur la place de l'artiste déjà dans le débat sociétal, savoir un petit peu où est-ce qu'on se plaçait, qu'est-ce qu'on avait, quel était notre message, c'est pas si facile que ça. Et puis, je me disais surtout, qu'est-ce que nous on peut faire à notre niveau, et plutôt que de... J'avais l'impression que l'écologie, quand on parlait de notion écologique, finalement, on stigmatisait, on disait surtout aux gens ce qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Et donc, dans ce sens-là, je me suis dit que peut-être que on avait une mission d'éduquer les gens et de sensibiliser surtout les publics par le beau, par l'art, par l'image et donc par la musique aussi, évidemment. Parce qu'on sait faire, si vous voulez, tous à notre niveau. Et moi, je me suis dit que modestement, je ne voulais plus être passif dans ce débat-là. J'avais envie d'être actif et justement parce que quand on agit, je me suis rendu compte que, en le faisant d'ailleurs, que quand on agit, eh ben, ça rend heureux. Et moi, je suis vraiment très, très heureux d'avoir pu faire ce que je peux faire, moi, à mon niveau, c'est-à-dire rassembler des artistes pour collecter des fonds pour des actions précises. Et c'est tout le but de ce projet qui se perpétue d'année en année maintenant.
Je signale que tous les bénéfices des concerts sont reversés à la fondation Good Planet afin de soutenir des projets notamment de lutte contre le réchauffement climatique. Ce soir à 20h, donc, concert de l'an dernier donné salle Cortot. On a vu ces dernières semaines et on a entendu ici même à cette heure-ci sur France Musique des musiciens dire que cette crise a peut-être éveillé des consciences. Certains n'iront plus jouer à l'autre bout du monde pour un concert. Vous avez ce sentiment là aussi, Christian-Pierre Lamarca?
Oui, c'est-à-dire que c'est aussi très révélateur de se retrouver chez soi et d'écouter le temps, si je puis dire. C'est-à-dire d'écouter les oiseaux. On n'a jamais autant d'oiseaux. On n'a jamais été dans cette forme d'introspection qui nous a permis, quelque part, de nous recentrer tous sur l'essentiel, puisqu'on est dans un monde qui va à 200 à l'heure et que, voilà, nous, les artistes, on est toujours dans l'avion, on est toujours en train de... Finalement, on a une empreinte carbone qui est, je crois, la plus mauvaise. Mais effectivement, ça nous fait prendre conscience que peut-être qu'on va être, on va changer nos actions et on va être dans un rapport un tout petit peu comme la nourriture, c'est-à-dire dans un rapport un peu plus local, aller jouer pour plus près de chez nous, de partager les choses plus simplement, je crois. Alors espérons que ça puisse durer, espérons que ces consciences seront réellement marquées et que on pourra réellement être dans cette démarche-là. Mais je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur les actions en fait qu'on va mener grâce à ce concert, parce que j'ai vraiment insisté pour que ce soit des actions concrètes, parce que je ne voulais pas que les gens se se sentent, voilà, un peu, ne sachent pas où vont les fonds. Moi, c'est très important, c'est-à-dire de faire une action pour qu'il y ait une réelle cause. Et là, les deux causes, l'année dernière, tous les fonds qui ont été rassemblés à la suite de ce concert ont été alloués à la construction d'une école bioclimatique qui est construite à partir de matériaux naturels. Et c'est des écoles qui ont un petit jardin à côté où on enseigne aux enfants, on les éduque, si vous voulez, sur les notions environnementales. Et cette année, le projet donc du concert qui aura lieu le 3 octobre à la scène musicale, ce sera pour une action de reforestation en Amazonie suite aux incendies terribles qu'il y a eu. Et donc voilà, chaque année, on va, si vous voulez, prendre quelques images, on va sur place aussi. On va capter les moments, on va vérifier ce qui s'y passe avec la Fondation Good Planet et on propose d'une année sur l'autre de regarder les images des actions concrètes.
3 octobre à la scène musicale, c'est noté. Ce soir, 20h sur France Musique, le concert de l'an dernier. Merci Christian-Pierre Lamarca.
Avec grand plaisir.
Comme tous les musiciens, l'été est une période importante. Vous deviez donner de nombreux concerts. On a parlé du Festival de Forêt. Vous allez faire quoi cet été ?
Eh ben écoutez, je crois qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Il me semble qu'il y a un petit festival à Radio France déjà.
Oui, absolument.
Il me semble que non, j'ai l'impression que tout le monde met du sien et trouve du positif dans cette situation catastrophique. Il faut quand même bien le dire pour le métier du spectacle et les musiciens. Mais tout le monde essaye de donner de sa personne pour que l'été se passe au mieux. Et finalement, tout le monde essaye de s'adapter. Et j'ai l'impression, enfin en tout cas moi, je vais jouer en Allemagne par exemple, où c'est beaucoup plus, ça c'est ouvert depuis un peu plus longtemps. En tout cas, les salles de concert ont un tout petit peu plus repris. Et puis il y a beaucoup d'initiatives de festivals qui se maintiennent ou qui essayent de trouver des solutions en plein air ou autrement. Et je trouve que c'est génial. Je trouve qu'il y a une grande solidarité dans notre métier. Finalement, moi je suis plutôt du côté des optimistes et je me dis que finalement ça sera. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont et que le futur sera forcément plus radieux.
L'optimiste Christian-Pierre Lamarca, merci beaucoup. Le concert pour la planète enregistré l'an dernier, salle Cortot, c'est ce soir à 20h sur France Musique avec Benjamin François. On note donc à la scène musicale le 3 octobre et en cette journée mondiale de l'environnement, on se quitte avec vous. Élise de la Salle au piano, Gabriel Fauré, Papillon. Merci Christian-Pierre.
Ben voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste, bonne journée.
Bonne journée. Papillon, Gabriel Fauré, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, Lise de la Salle au piano. C'est la fin de Musique Matin. Alex Billard, derrière son masque, était à la technique, ainsi qu'Emmanuel Rose, Yacine Bouzard à la réalisation, qui enlève son masque, Marion Guillemette, Aïssia Froidure, Margot Muller à la coordination. Lundi, notre invité sera Philippe Pierlot pour les 40 ans du Ricercar Car Consort et de son nouveau disque aussi, Monsieur de Sainte-Colombe.
À réécouter sur francemusique.fr.